Et je vais lire dans ce chapitre. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Dans cet épître, donc, l'apôtre Paul enseigne son jeune disciple Timothée, qui est pasteur, et lui explique comment on doit se conduire dans la maison de Dieu, ce qu'il doit enseigner notamment dans la maison de Dieu. Et nous prenons un angle particulier, c'est les meilleures choses que nous devons rechercher. Et là, les meilleures choses, eh bien, c'est s'occuper des siens, que ce soit sa famille ou bien les frères et sœurs en difficulté que nous connaissons. Une église est premièrement faite pour les besoins spirituels, puisque l'église, c'est le corps de Christ, où nous sommes unis par, Éphésiens 4, hein, nous le rappelle, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, etc. Et ce sont que des choses spirituelles qui sont mentionnées ici, hein, Dieu, la foi, le baptême, c'est spirituel. Néanmoins, nous avons tous des corps, des besoins, on a besoin de dormir, de se loger, de se vêtir, de manger. Et l'Église doit aussi aider les frères et sœurs qui sont en difficulté dans ces domaines matériels. En Galates 6, verset 10, il y a cette exhortation. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc c'est Dieu nous appelle à faire du bien à tout le monde. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer tout le monde. Néanmoins, le Seigneur nous rappelle qu'on doit aussi aimer son prochain, celui qui est proche de nous, et donc notre frère ou notre sœur en Christ est proche. Donc il dit surtout envers les frères en la foi. Et c'est un grand classique d'aider l'étranger au loin et de négliger le plus proche de soi. Hein, l'être humain fait toujours des choses comme ça. Donc on va négliger sa famille, on va négliger son frère ou son église, et puis on va aller aider quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, mais qui habite à 12 000 kilomètres. Donc il faut commencer par ceux qui nous sont proches. Voilà le ministère que Dieu nous confie. Il faut veiller les uns les autres, les uns sur les autres avec amour. Et là, dans 1 Timothée 5, Paul parle surtout des veuves et après on va voir des anciens dans l'Église. Mais d'abord, il dit à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard. Le mot qu'il utilise dans toute l'épître à Timothée, Paul utilise des mots de grecs qui sont très particuliers, qui n'utilisent qu'une seule fois, qu'on ne retrouve qu'une fois dans le Nouveau Testament. Et malheureusement, on a perdu quand même le grec ancien. On ne sait pas toujours comment ces mots étaient utilisés. Mais là, ce mot, ça veut vraiment dire mettre une fessée, châtier un enfant. Alors, Paul dit, ne considère pas les frères et sœurs sur lesquels tu as la charge comme des petits bébés que tu châties, hein, ou tu corriges, allez, à la porte ou au coin. Ce sont tes frères et tes sœurs, particulièrement le vieillard, la personne âgée, puisque Timothée était relativement jeune, dans la trentaine. Il dit exhorte. Donc exhorte, ça ne veut pas dire justement châtier. Exhorte, ça veut dire donner un conseil, encourager, dire voilà ce qu'il faut faire, montrer la voie, hein, comme un père, voilà, comme un parent, comme quelqu'un que tu respectes beaucoup parce qu'il a de l'âge. Ça, c'est quelque chose qui disparaît, le respect pour l'âge, hein, pour la famille, pour les parents. Et dans l'Église, vraiment, nous devons respecter les personnes plus âgées. Nous avons l'exemple des Coréens ou des certains pays asiatiques. Hein. Alors eux-mêmes, ils vont très loin, ils vont dans le culte des ancêtres. Mais ils ont un respect pour la personne âgée au Japon, par exemple. Hein. Vraiment, ils n'oseraient même pas élever le ton ou contredire une personne âgée. Alors ici, ce n'est pas ce que Paul veut dire, on peut le reprendre, mais comme un père. Pareil, la femme âgée comme une mère, le jeune, eh bien, comme un frère. Donc là, c'est cette idée, hein, c'est pas parce que tu es plus jeune que je te traite comme un enfant ou comme quelqu'un qui doit simplement obéir. Je te traite comme mon propre frère. Il y a ce respect qui doit venir des anciens envers leurs frères et sœurs lorsqu'ils donnent un conseil ou une direction. Et puis, il parle des veuves. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Alors, honore, nous allons voir que ce mot ne veut pas simplement dire honore de façon théorique. On peut dire, oh, j'honore les hommes politiques, j'honore mes parents. Mais dans la Bible, honorer ses parents, ça veut dire les traiter non seulement avec respect, mais s'occuper d'eux. Ce n'est pas juste, oh, on n'honore pas quelqu'un comme ça, oh, je t'honore en parole. Honorer dans la Bible, c'est vraiment s'occuper avec respect de quelqu'un. Et là, il s'agit des veuves, mais pourquoi il dit celles qui sont vraiment veuves? Alors, est-ce qu'il y a des fausses veuves? Alors, en fait, ce n'est pas qu'il y a des fausses veuves, c'est qu'il y a des veuves qui n'ont pas besoin d'être aidées dans l'Église. Voilà. Là, il est en train de parler des veuves qui reçoivent de la part de l'Église une aide matérielle et probablement financière. Alors, au verset 4, il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Et au verset 8, ce grand verset, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors là, le Seigneur est très très clair là. Si on est chrétien, on honore sa famille, on s'occupe de sa famille. Et celui qui ne s'occupe pas des siens, peu importe le prétexte qu'il donne en disant mais moi je suis consacré à Dieu, je ne peux pas m'occuper de mes parents ou celui-là, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, eh bien il est pire qu'un infidèle. Donc c'est vraiment très très fort. Hein. Il ne vaut pas mieux qu'un inconverti. Ici, il est encouragé, il est même demandé aux enfants ou aux petits-enfants de s'occuper de leur maman ou de leur grand-mère si elle est veuve. Alors ça, c'est quelque chose qui disparaît. Hein. Dans les sociétés anciennes, même encore, ça existe encore dans le monde, les parents étaient logés chez les enfants quand ils devenaient âgés, quand ils prenaient la retraite. Et les enfants pourvoyaient leurs besoins, leur donnaient un petit logement, etc., avec eux. Et surtout chez les agriculteurs, il y avait toujours dans la ferme le coin pour les parents. Alors, c'est évident qu'à Paris, dans un deux pièces, si vous avez déjà un enfant ou deux, rajouter vos parents ou votre père ou mère veuve, ça peut causer plus de troubles qu'autre chose, hein, d'avoir ses parents dans les pattes quand c'est tout petit. Néanmoins, le principe demeure. Nous devons nous occuper de nos parents, et il dit pourquoi? Nous devons leur rendre ce que nous avons reçu d'eux. Et il y a une sorte de reconnaissance. Nos parents nous ont élevés, se sont sacrifiés souvent pour nous, ils ont passé du temps pour nous, alors ils méritent d'une certaine façon, par la charité chrétienne, qu'on s'occupe d'eux à notre tour. Car cela est agréable à Dieu. On peut se dire, mais si mes parents n'ont pas été gentils avec moi, mes parents ne m'ont pas bien élevé, ou je sais pas, ils m'ont abandonné, ou peu importe, eh bien je pense qu'un chrétien, il doit avoir assez d'amour chrétien pour s'occuper même de parents qui n'ont pas été très bons. Au contraire, il doit justement leur témoigner l'amour de Dieu et les amener au Seigneur. Mais il y aurait beaucoup moins de problèmes dans notre monde. Et je pense aux retraités qui sont en grande difficulté financière parce que leur retraite est de plus en plus petite et que les enfants abandonnent. Quand il y a eu la fameuse canicule en France, il y a eu des centaines de morts, surtout chez les personnes âgées, et il y a eu surtout des cas d'abandon total, c'est-à-dire des personnes qui sont mortes sans que jamais personne ne vienne réclamer le corps. Ce n'était pas qu'ils n'avaient aucune famille, c'est qu'aucune famille n'est venue s'en occuper. En plus, c'était pendant les vacances d'été, tout le monde était à droite et à gauche. Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans une société lorsqu'on néglige nos anciens. Et l'Église doit être un modèle pour ça. En tant que chrétien, on doit s'occuper de nos parents et même on doit honorer nos grands-parents s'ils n'ont pas d'enfants ou s'ils n'ont pas de famille qui s'en occupent. J'ai rencontré des personnes qui n'étaient même pas chrétiennes, qui se sont occupées de leurs parents malades jusqu'à la mort de cette personne. Je me souviens de cette femme, elle était encore célibataire à, je sais pas, elle avait 45 ans, parce qu'elle avait passé les 15 dernières années de sa vie avec sa mère malade, pour s'en occuper. Elle vivait avec elle. Et elle s'occupait d'elle, sa mère déclinait petit à petit, mais ça a duré 15 ans quand même. Quand je vois ça, je dis, quel dévouement. Vraiment, c'est quelque chose d'admirable de faire ça, de quelque part renoncer à sa propre vie pour soigner, honorer ses parents. Et vraiment, il faut avoir cette attitude. Si on était âgé, si on était malade, si on avait des problèmes pour se déplacer, est-ce qu'on n'aimerait pas avoir quelqu'un près de nous qui nous aide? Et si possible, un de nos enfants. Alors il faut se mettre à la place de notre parent, de notre grand-père, grand-parent, qui est veuf ou veuve. Au verset 5, il dit « Celle qui est véritablement veuve, qui est seule, hein, elle est dans la solitude. » Donc c'est ça. Ce qu'il appelle les personnes vraiment veuves, c'est les personnes qui n'ont personne. Pas d'enfants, pas de petits-enfants. La personne, elle est toute seule, elle n'a plus de mari, elle n'a pas de pension comme nous en avons aujourd'hui. Donc elle n'a aucun revenu, elle n'a pas la santé pour travailler. Elle se retrouve donc totalement démunie et heureusement à ce moment-là que l'Église vient aider cette veuve. Il dit, elle met son espérance en Dieu et elle persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. À qui ça vous fait penser? Ce genre de veuve dans l'évangile. Voilà, Anne, regardez avec moi en Luc 2. En plus, ça nous rapproche de Noël. Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve. Donc apparemment, la pauvre, elle a été veuve très jeune. Et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, ce n'était pas une grenouille de bénitier. Ce n'est pas parce qu'elle était toujours les jours au temple et qu'elle était dans la prière qu'elle était une bigote de mauvais caractère. Non, C'était une femme qui loue Dieu quand Jésus arrive, quand on présente Jésus au temple. Elle parle, elle évangélise, elle dit, hey, c'est lui le Messie, c'est lui que nous attendons. Mais elle s'était consacrée à Dieu après son veuvage. Et c'est quelque chose, là encore, qui peut nous inspirer. Ayant perdu son mari, elle a consacré son temps au Seigneur. Elle n'a pas cherché, elle aurait pu, elle était jeune, je pense, hein, elle aurait pu chercher un autre mari, mais elle, elle a préféré se consacrer au Seigneur. Nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Pourquoi? Parce qu'elle attendait le Messie. Elle avait reçu de Dieu, hein, comme Siméon aussi, cette annonce qu'elle verrait le Messie, qu'il allait venir délivrer Israël, sauver le monde du péché. Et elle attendait près du Seigneur. Alors, on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment la vie que Dieu me réserve si je suis veuve ou veuf, c'est-à-dire, est-ce que je vais m'enterrer dans l'église ou je ne sais pas. Encore une fois, nous avons cette fausse idée qui vient peut-être du catholicisme, hein, de la grenouille de bénitier. Mais quelqu'un qui se retrouve veuf ou veuve, d'un seul coup, il a tout le temps, il n'a plus ses enfants à s'occuper normalement. Il a tout son temps pour servir le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre à profit. C'est une bénédiction tout ce temps. C'est quelqu'un qui peut faire énormément pour le royaume de Dieu. Et ça ne veut pas dire quelqu'un qui va renoncer à toute sa vie. C'est quelqu'un qui, au contraire, va avoir une vie remplie par Dieu. Donc attention à ne pas voir d'un mauvais œil, hein, la consécration, parce que ça, c'est Satan qui nous la présente comme ça, hein. Oh là là, si tu te consacres à Dieu, tu vas voir, tu vas disparaître, tu vas t'enterrer. Au contraire, plus on est consacré, plus on est rempli, et plus on a une vie merveilleuse, parce que la vie par la foi est une vie d'aventure. On ne sait pas toujours ce qui va nous arriver demain. On ne sait pas là où Dieu va nous conduire. Et on voit du fruit spirituel. Il y a des choses qui se passent quand on sert le Seigneur. Moi, je trouve que c'est mieux qu'une vie de routine, de train-train, matérialiste, où il ne se passe jamais rien, vous êtes dans le vide. Tout ce que vous faites, c'est ben, survivre. Alors que quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a des choses merveilleuses. Verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Le mot pour, traduit par plaisir, c'est un mot qui veut dire dans le luxe. Ce n'est pas le mot habituel pour le plaisir, mais c'est quand même un peu la même idée. C'est une veuve qui apparemment avait beaucoup de biens, ou de peut-être son mari était très riche, il lui a légué plein de choses. Et donc, elle est veuve, elle est chrétienne, elle est membre de l'Église, mais elle a tellement de choses qu'elle possède, de luxe, qu'au fond, elle ne se consacre pas à Dieu. Et Paul dit, bien que vivante, elle est morte. Et j'aimerais faire une petite parenthèse au sujet de l'hédonisme. L'hédonisme, ça vient du mot hédon, plaisir en grec, justement. Et c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant dans notre société. L'hédonisme, c'est la recherche personnelle du plaisir, en général. Et dans l'encyclopédie, enfin Wikipédia, il y a quelques phrases intéressantes et ça a dû être écrit par un protestant. Vous allez voir pourquoi. Beaucoup de philosophes hédonistes, ou ayant une conception qui s'en rapproche, ont tenu des postures athées ou agnostiques, comme Épicure. Donc beaucoup de gens qui prônent l'hédonisme, en général, ne sont pas chrétiens, ils sont athées ou. D'autres sont anarchistes, comme Michel Onfray, qui revendique la société socialiste libertaire comme mode politique de l'hédonisme. Michel Onfray est assez connu en France, c'est un agnostique ou athée, même anti-religion. Lui, il combat tout ce qui est religieux. Donc, même il a combattu la psychanalyse, il combat la foi. Et lui, il est pour une sorte d'anarchie et d'hédonisme, c'est-à-dire. Tu dois te faire plaisir. Et il y a un principe hédoniste, c'est jouis, fais jouir les autres du moment que tu ne leur fais pas de mal. Et ça, il y a beaucoup de gens qui suivent cette maxime, c'est-à-dire moi, je jouis de la vie, je veux du plaisir pour moi, je veux partager ce plaisir avec les autres du moment que je ne leur fais pas de mal. Et pour certains, voilà la philosophie de leur vie résumée. Michel Onfray est à peu près là-dedans. dans le bon vivant français. C'est très français, ça aussi. Hein. Le bon vivant, il aime bien les bons gueuletons, boire un petit coup de trop, faire la fête avec les amis. Et c'est vrai qu'il y a rien de mal à ça. Faire un bon repas avec des amis, est-ce que c'est un grand péché? Est-ce que c'est mauvais? Il faut noter, continue la citation, cependant, l'existence d'une ligne de pensée chrétienne revendiquant la foi chrétienne comme un hédonisme véritable, car menant au plaisir le plus profond et le plus durable dans la contemplation de Dieu. Le représentant le plus notable de cette ligne est John Piper, donc qui est cet écrivain, pasteur baptiste américain, calviniste, qui n'hésite pas à qualifier sa position d'hédonisme chrétien. La même idée se retrouve chez C.S. Lewis, hein, qui est cet écrivain chrétien aussi, Blaise Pascal, Érasme, Thomas d'Aquin et Augustin. Alors après, on peut discuter si on est d'accord ou pas, c'est pas ça l'intérêt, mais c'est pour dire d'abord que l'hédonisme en général n'est pas chrétien. Et même l'hédonisme qui se dit chrétien chez John Piper, on peut vraiment mettre en doute ce mélange. Hédonisme, c'est quand même quelque chose d'opposé à la foi. Et 1 Timothée nous le dit. Celle qui vit dans l'hédonisme, on pourrait dire, hein, elle est morte, quoique vivante. Ou dans Tite, hein, il dit que autrefois vous viviez dans les voluptés, dans l'envie, et vous vous haïssiez les uns les autres. Et c'est vrai que quand on vit dans la volupté, quand on vit dans le plaisir, c'est très, très égoïste, très égocentrique. C'est très difficile d'être hédoniste, généreux. Alors, il y a des gens qui disent, mais moi, j'aime bien quand je vais au restaurant, j'invite toujours quelqu'un. Quand je vais en boîte de nuit, je paye une bouteille de champagne pour tout le monde. Voilà, moi, je partage, l'argent, ça doit couler à flot, etc. Est-ce que c'est vraiment la générosité? Ou est-ce que c'est pour avoir des amis? Personnellement, je penche pour la deuxième solution. Quand vous avez de l'argent, que vous invitez des gens, vous avez des amis. Oh là là, oui. Là, vous allez vous faire plein d'amis si vous voulez leur payer à manger, à boire, ou un voyage, etc. Mais ce n'est pas vraiment de la générosité. Le chrétien n'est pas sur la terre pour rechercher son propre plaisir. Et nous sommes élevés dans cette société avec ça, un petit peu en butte. Hein. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est son bonheur, son plaisir. Et si Dieu nous demande quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, on n'est pas content. Même on va se rebeller, on va dire, mais Seigneur, là, ça ne va pas. Voilà. Et on a une fausse idée, hein, du bonheur et du plaisir. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'hédonisme, c'est je reçois, je reçois, je reçois. Et plus je reçois, plus je jouis de la vie, etc. Mais en fait, plus on reçoit, plus on a besoin de recevoir et moins on est satisfait. Tandis que quand on donne, on est satisfait parce qu'on voit les autres heureux, parce qu'on partage ce que Dieu nous donne. Et c'est un petit peu comme une source, hein. Une source, pour qu'elle coule, il faut qu'elle sorte. Voilà. Si une source est arrêtée au départ, elle ne coule plus. Regardez la mer morte en Israël, il n'y a plus de source qui l'alimente, elle s'appelle la mer morte. Et elle ne peut plus rien donner de bon, elle est complètement salée, donc elle est stérile. Et si vous arrosez des champs avec la mer morte, vous allez les brûler. Et là, la veuve qui cherche uniquement son plaisir dans le luxe est morte, quoique vivante. Et nous, quelque part en France, nous vivons dans un certain luxe, hein, jusqu'à maintenant. Faut reconnaître par rapport à d'autres pays. Et cela peut nous amener à mourir spirituellement, à perdre de vue le royaume de Dieu, le salut des âmes, la perdition des âmes, le retour de Christ. Dès qu'on s'installe dans le luxe, la facilité, on s'éloigne, on se refroidit par rapport au Seigneur. Déclare ces choses, dit le verset 7. Et puis verset 9, qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle. Et là, il va donner un certain nombre de critères. Qu'est-ce que c'est le rôle? En fait, c'est un terme pour désigner la liste des veuves soutenues par l'Église. Donc pour être sur la liste des bénéficiaires de l'aide, il fallait un certain nombre de critères. Vous allez voir, c'est pas rien. Il fallait avoir au moins 60 ans. Donc si vous étiez plus jeune que 60 ans, on disait vous êtes une jeune veuve, donc va chercher un mari. Il ne fallait avoir eu qu'un seul mari. Alors, ça ne veut pas dire que si une veuve avait été veuve deux fois, ça arrive hein, qu'on soit veuf deux fois, hein, ou même trois fois des fois, mais au bout de trois fois, la police s'intéresse à vous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ait été mariée qu'une seule fois, mais ça veut dire qu'elle n'ait eu qu'un seul mari à la fois, que ce ne soit pas une personne qui soit entretenue, vous voyez, c'est ça l'idée, par plusieurs hommes ou quelque chose comme ça, ou qu'elle soit polygame, il y avait encore de la polygamie à cette époque-là. Elle devait avoir une bonne réputation, elle devait être recommandable par ses œuvres. Elle devait avoir élevé ses enfants, et si possible correctement. Elle devait être hospitalière, j'aime ce mot dans le Nouveau Testament, ça veut dire qui accueille l'étranger. Hein? Hospitalier, c'est quelqu'un qui accueille même quelqu'un qui ne connaît pas, un étranger. Voilà. Donc elle devait avoir ce cœur ouvert aux autres. Elle devait avoir lavé les pieds des saints. Alors bien sûr, il ne faut pas le prendre littéralement. Vous savez qu'au Moyen-Orient, lorsque quelqu'un rentrait chez vous, vous aviez presque l'obligation morale de lui laver les pieds. Parce que ça, c'était la coutume de l'hospitalité. Vous lavez les pieds, vous donnez de l'eau pour qu'ils boivent et de l'huile pour qu'ils se parfument. C'est comme ça qu'on accueillait l'étranger chez soi. Et là, laver les pieds des saints, c'est une expression pour dire s'occuper, accueillir les frères. Hein. Les saints, c'est les frères et sœurs. C'est pas les super saints hein, de l'Église catholique, c'est les frères et sœurs. Mais il y a quand même cette idée d'humilité là, laver les pieds. Ce n'est pas juste que je m'occupe des saints un petit peu avec condescendance, tiens, toi, je te donne un billet par-ci, par-là. Tu te donnes, laver les pieds, c'est quand même cette idée de servir les frères et sœurs. Et il fallait qu'elle soit compatissante envers les malheureux et ayant fait beaucoup de bonnes œuvres. Alors, vous avez vu le niveau que Dieu demande. Alors, tout ça, c'est pour une veuve qui est aidée par l'Église. Mais franchement, nous pouvons l'appliquer à nous, hommes et femmes. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que c'est l'héritage que je laisse? Est-ce que j'ai élevé mes enfants? Est-ce que j'ai une réputation de quelqu'un qui fait du bien? Est-ce que je suis quelqu'un d'hospitalier qui accueille les gens, qui est toujours disponible? Est-ce que je suis humble au service de mes frères et sœurs? Est-ce que je suis compatissant vers les malheureux? Voilà, à chacun de nous de se le demander et de suivre l'idéal de Jésus-Christ. Alors pourquoi les critères étaient si élevés? C'est parce qu'il y avait des abus, évidemment. L'Église voulait encourager les frères et sœurs qui servaient pour le Seigneur et non pas les paresseux. Ça me fait penser à l'épître aux Thessaloniciens, hein, au chapitre 3 de la deuxième épître. Il dit, nous apprenons qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc apparemment, et avec Thessaloniciens, c'est par rapport au retour de Christ. Il y avait des gens qui disent, le Seigneur va revenir. Ils rejoignaient une église. Oui, le Seigneur va revenir, il faut se préparer. Écoutez, ben, j'ai plus le temps de travailler. Il faut que vous m'aidiez financièrement. Hein. Vous avez de l'argent, vous êtes une grande église quand même. Est-ce que vous pourriez me donner à manger? Et tous les jours, ils allaient un peu quémander après l'église. Et en fait, ils auraient pu travailler, ces gens-là. Et là, le Seigneur est obligé de dire hein, qu'ils travaillent. S'ils ne travaillent pas, qu'ils ne mangent pas non plus. Hein. Là, Dieu est strict. Dieu n'encourage jamais la paresse. Et le Seigneur nous appelle à travailler, que ce soit dans le monde séculier ou dans l'Église. On ne doit pas perdre son temps dans des futilités. On doit vraiment servir de façon sérieuse. Verset 11, refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables lorsqu'elles violent leur premier engagement. C'est le verset le plus difficile, parce que voilà ce qu'on comprend au premier abord. Ce qu'on comprend, c'est que quand une veuve est jeune, elle se détache du Seigneur pour le plaisir, la volupté, et veut se marier, et en se mariant, elle trahit son premier mariage. Son premier engagement, on pense au mariage. Et donc, on a l'impression que Dieu ne veut pas qu'une jeune veuve se remarie, parce qu'elle trahit son premier engagement. Et ce n'est pas du tout ça que veut dire ce verset, mais c'est la première impression qu'on a quand on le lit. Et on se dit, oh là là, alors on doit rester veuf toute sa vie, tout seul, parce que c'est ça que Paul a l'air d'encourager. En fait, on découvre ailleurs dans le Nouveau Testament, parce qu'il faut toujours aller regarder ailleurs, que ce n'est pas le cas du tout. Par exemple, dans Romains, il est bien dit que quand le mari meurt, la femme est libre. Et sous-entendu, elle est libre, bah, de se remarier. Elle n'est pas libre, juste libre, libre. Et parce que la mort met fin à l'engagement du mariage. Donc, première chose, c'est pas parce qu'on est veuf ou veuve qu'on ne peut pas se remarier. Deuxièmement, il y a le verset 14 qui suit, qui nous dit bien qu'elles se marient, les jeunes veuves. Donc Paul se contredirait. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ce premier engagement dont il parle? Hein? Elles violent leur premier engagement. C'est un petit peu compliqué, on ne sait pas. Voilà ce que la plupart des commentateurs déduisent, c'est que la personne perd son mari, elle est assez jeune, hein, dans trentaine, quarantaine. Et elle vient à l'église en disant, écoutez, je veux me consacrer au Seigneur, je suis veuve, je veux m'engager dans l'église, je veux servir le Seigneur parmi vous, je veux faire des bonnes œuvres, je veux faire voilà. Et donc, s'étant engagée à servir le Seigneur, l'église va lui donner une compensation pour son travail dans l'église. Mais comme elle est jeune, elle commence à regarder des hommes à droite à gauche et à dire, oh, je ne veux pas rester juste à l'église, elle commence à s'amuser, aller à des fêtes, à des trucs comme ça. Et au lieu de se consacrer au Seigneur, comme elle l'a dit, elle commence à s'éloigner du Seigneur et donc à violer quelque part cet engagement qu'elle avait fait devant l'Église de servir le Seigneur maintenant qu'elle était veuve. Je pense que c'est l'explication la plus logique ou la plus, enfin, qui correspond le mieux, que cet engagement, c'est de servir Dieu après son veuvage. Et donc Paul dit, si elles ne peuvent pas servir Dieu, si elles sont trop occupées à chercher un nouveau mari ou je ne sais pas quoi, qu'elles ne s'engagent pas, mais qu'elles se marient par contre, mais qu'elles ne restent pas juste célibataires, fricotant à droite à gauche. Si elles sont chrétiennes, elles doivent être près du Seigneur. Et pour être près du Seigneur, on est soit marié, soit consacré à Dieu. Pas si vous avez compris ou il faut que je réexplique. Ça va à peu près? Pardon. Et puis, il dit, quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Et donc, apparemment, il y a des femmes qui, après leur veuvage, ont bien commencé en disant, je vais me consacrer à Dieu, et puis ont mal terminé. Elles ont suivi Satan plutôt que le Seigneur. Et ça doit nous mettre en garde, hein, attention aux engagements qu'on prend. Un peu comme Pierre, je ne te renierai jamais. Et ben, il a renié 3 fois. Donc, si je prends un engagement, il faut que ça vienne de Dieu d'abord. Il faut que ce soit un appel de Dieu et ensuite j'obéis au Seigneur. Mais pas d'engagement à la légère qu'on ne peut pas tenir, surtout là pour une jeune hein, qui n'était pas sûre hein, d'elle-même. Finalement, verset 16, il dit, si quelqu'un, un homme ou une femme a des veuves, ça veut dire si ben, dans sa famille il y a une veuve et qu'il a les moyens de l'aider, ben, qu'il l'aide. Qu'on ne demande pas à l'Église de s'occuper de personne. Encore une fois, on voit qu'il encourage la famille à s'occuper de sa famille. Voilà. Ce n'est pas à l'Église de s'occuper.